à voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Marc Fumaroli de l'Académie française a écrit dans un article pour le Figaro magazine « Dans la suite de nos rois, François Ier tranche par un tempérament physique et moral d'une éclatante santé qui frappa ses contemporains autant que la vivacité et la gaieté de son esprit. Après Philippe Auguste, consumé d'ambition, Saint Louis de dévotion, Charles V de sagesse, Charles VI de folie, Charles VII de tristesse, Charles VIII de donquichottisme et Louis XII d'infirmité, surgit François Ier, athlétique, de grand air, débordant d'énergie et ne tenant pas en place, à la fois imaginatif, gourmand et intelligent. La mélancolie fait soudain place à la surabondance de vie et à l'appétit joyeux des saveurs terrestres. À lui seul, François Ier incarne un beau XVIe siècle et une renaissance qui ne survécurent pas à ses 30 ans de règne et un royaume de France peuplé et prospère qui trouva en lui son identité charnelle et la conscience de son poids dans les affaires du monde. C'est à ce roi, qui incarne donc si bien la renaissance, que Canal Academy a le plaisir de consacrer deux émissions de la série « Les académiciens racontent l'histoire ». La première émission a fait revivre des textes des académiciens historiens Gabriel-Henri Gaillard et Victor Duruy. Cette seconde émission vous propose les regards de François-Auguste Mignet et du duc Lévis de Mirepoix sur le vainqueur de Marignan. Avant de commencer ces évocations, Daniel Jeanne vous livre quelques précisions sur la vie et l'œuvre de François-Auguste Mignet.
François-Auguste Mignet naît en 1796 à Aix-en-Provence. Il y fait des études de droit et se lie d'amitié avec Adolphe Thiers, qui deviendra président de la Troisième République en 1871. Il compose son œuvre majeure d'historien, l'histoire de la Révolution française de 1789 jusqu'en 1814, qui est publiée en 1824 et traduite en 20 langues. Il se démarque de la vision historique de Jules Michelet. Sous Louis-Philippe, il est conseiller d'État, directeur des archives au ministère des Affaires étrangères. Dans le journalisme, il est rédacteur au Constitutionnel, au Courrier français, à la Revue des Deux Mondes, au Journal des Savants. Par ses articles contre les Bourbons, il devient un des artisans des Trois Glorieuses en juillet 1830. En 1846, il charge Jules Bonnet de recueillir les lettres inédites de Calvin. Le poète allemand Heinrich Heine admirait l'œuvre de son ami Mignet. Membre de l'Académie des sciences morales et politiques dès 1832, Mignet est élu à l'Académie française en 1836. Il meurt à Paris en 1884. Pendant 30 ans, la durée de tout son règne, il existe entre François Ier et Charles Quint une rivalité qui ne s'éteint qu'avec la mort de ce dernier. Cette émission pourrait s'intituler « Les ors et les ombres » ou « De l'éclat du camp du drap d'or aux souffrances de la captivité ». Tout d'abord, voici un extrait relatant l'entrevue du camp du drap d'or. À ce sujet, Chateaubriand écrit « L'entrevue de François Ier et de Henri VIII près de Guînes, appelé le camp du drap d'or, fut une dernière parade des temps féodaux, un simulacre des tournois, des cours plénières, de ces anciennes mœurs déjà assez passées pour n'être plus que des spectacles. »
Le jour même où il se sépara de Charles Quint, Henri VIII s'embarqua pour aller voir François Ier. Il arriva à Calais le 1er juin, accompagné de la reine Catherine, sa femme, suivi de son premier ministre Wolsey, escorté des grands officiers de sa couronne et des principaux prélats de son royaume, et conduisant avec lui ce que l'Angleterre avait de plus noble et de plus opulent. Il portait sur sa flotte tout un vaste palais en bois et en verre, qui, ajusté et déployé hors du château de Guînes, fut intérieurement recouvert en étoffes de velours et de soie, ou orné avec les belles tapisseries d'Arras. Enfermé pendant la nuit dans le fort château de Guînes, Henri VIII devait pendant le jour habiter cet élégant palais pour y recevoir et y fêter la cour de France. De son côté, François Ier, heureux de la rencontre dont il attendait la consolidation d'une amitié qui ne lui laissait craindre, comme il le disait, aucun prince sur le continent et le rendait certain de réussir dans ce qu'il projetait d'entreprendre, s'était transporté jusqu'au château d'Ardres. Il y était venu en compagnie de la reine Claude, sa femme, de la duchesse d'Angoulême, sa mère, de la duchesse d'Alençon, sa sœur, formant avec lui, par l'accord intime des idées et des sentiments, cette trinité spirituelle que chantaient les poètes et à laquelle se recommandaient les ambassadeurs. Il amenait 4 cardinaux, tous les princes de sa famille, le fier connétable de Bourbon, resté souverain féodal de plusieurs provinces du centre de la France, l'amiral Bonnivet, le chancelier du Prat, les divers officiers de sa couronne, les plus grands seigneurs du royaume, et même un certain nombre de gentilshommes qui, pour figurer dans cette entrevue fastueuse, avaient vendu leurs forêts, leurs moulins, leurs prêts qu'ils portaient sous l'expression de Du Bellay sur leurs épaules. Il avait fait dresser en dehors de la ville d'Ardres, et non loin d'un petit cours d'eau, plus de 300 pavillons couverts de toiles d'or et d'argent, tendus de velours et de soie, et sur lesquels étaient déployées les armes de France, où flottaient les insignes des princes et des seigneurs composant la brillante escorte du roi. Au milieu s'élevait la tente royale, plus grande et plus haute que les autres, surmontée d'une statue d'or de Saint-Michel, que faisaient étinceler au loin les rayons du soleil, dont la lumière rendait plus splendide encore cet élégant amas de tentes dorées et de pavillons argentés. Rien ne fut égal en éclat à cette réunion des deux rois et des deux cours, au camp si bien nommé du drap d'or. Il y eut des deux parts un assaut de magnificence. Peut-être même chercha-t-on encore plus à s'éblouir qu'à se plaire, et l'étiquette nuisit-elle à la cordialité. Arrivé le 1er juin 1520, l'un à Calais, l'autre à Ardres, Henri VIII et François Ier s'envoyèrent visiter mutuellement par les personnages les plus considérables de leur conseil et de leur cour. 6 jours se passèrent en négociations pour régler leur rencontre. Tout fut enfin arrangé avec un soin aussi défiant que minutieux, et comme s'il y avait eu à craindre et à empêcher quelque trahison. Il fut convenu que, sorti du château de Guînes, où il s'était transporté le 8 juin, Henri VIII irait au devant de François Ier, qui, de son côté, parti du château d'Ardres, s'avancerait vers Henri VIII jusqu'à un point marqué de son territoire. Le mercredi 7 juin, les rois de France et d'Angleterre, montés sur de grands coursiers, vêtus le premier de drap d'or, le second de drap d'argent, parsemés de perles, de diamants, de rubis et d'émeraudes, la tête couverte d'une toque de velours resplendissante de pierreries, et que relevaient en flottant de magnifiques plumes blanches, se mirent en route à la même heure et du même pas. Leurs connétables les précédaient, l'épée nue à la main, et les seigneurs de la cour, dans de somptueux costumes, leur servaient de cortège. Chacun d'eux était suivi de 400 archers ou hommes d'armes composant sa garde. Ils descendirent ainsi les deux coteaux qui, par une pente insensible, conduisaient dans l'agréable plaine du Val d'Auray, où avait été dressé un pavillon pour les recevoir. Ils ressemblaient à deux chevaliers marchant au combat plutôt qu'à deux princes allant à une entrevue politique. Leur escorte ne dépassa point une certaine distance où elle fit halte et d'où elle parut veiller de loin sur eux sans que les archers anglais s'approchassent trop du roi de France, ni les hommes d'armes français du roi d'Angleterre. Un peu avant de se joindre, Henri et François piquèrent leurs coursiers, qu'ils arrêtèrent avec la sûreté et la grâce de deux des plus habiles cavaliers du monde lorsqu'ils se trouvèrent côte à côte. Portant alors l'un et l'autre la main à leur toque, ils se saluèrent noblement et s'embrassèrent sans descendre de cheval, puis, ayant mis pied à terre, ils se rendirent en se tenant par le bras sous le pavillon préparé pour leur entrevue. Ils y entrèrent en même temps. Les fêtes comme les rencontres, les festins comme les tournois, furent réglés et se passèrent d'une manière également cérémonieuse, avec des précautions qui excluaient l'intimité et des exigences qui annonçaient la jalousie. Lorsque François Ier allait dîner chez la reine Catherine à Guînes, Henri VIII venait dîner chez la reine Claude à Ardres. Les deux rois se servaient ainsi d'otages l'un à l'autre et se gardaient en quelque sorte chez eux, comme s'ils avaient été en face d'ennemis. Puis il y eut entre eux un nouvel échange de présents et de courtoisie. Cette émulation d'amitié fut suivie d'une rivalité d'adresse dans les tournois et les jeux que les deux rois donnèrent à leur cour. De vastes lisques terminaient des barrières fortifiées pour les gardes de chaque prince et que bordaient d'élégants échafauds dressés pour les reines et pour les dames avaient été préparés dans un lieu élevé et découvert. Là, pendant 8 jours, se poursuivirent à pied et à cheval, à la lance et à l'épée, des joutes auxquelles prirent part les plus habiles hommes d'armes de France et d'Angleterre. Les deux rois qui les dirigeaient y déployèrent, sans combattre ensemble, l'un sa brillante dextérité, l'autre sa force athlétique. François Ier, qui excellait dans les exercices chevaleresques, rompit ses lances avec une régularité accomplie. Henri VIII, dont l'impétuosité était irrésistible, atteignit si violemment de la sienne le casque de son antagoniste à la seconde rencontre qu'il le renversa de cheval et le mit hors d'état de fournir ses autres courses. Après 25 jours passés ensemble au milieu des fêtes et des plaisirs, François Ier et Henri VIII se séparèrent, cordialement unis en apparence. François Ier ne s'était pas assuré la coopération armée d'Henri VIII, mais il croyait avoir acquis son amitié intéressée et dès lors fidèle. Il l'avait acheté par une forte somme annuelle, qui sous une forme déguisée, était un véritable subside. Il se flattait donc que si le roi d'Angleterre ne se déclarait pas pour lui dans la querelle près de s'ouvrir, au moins il n'embrasserait pas la cause de l'empereur, son adversaire. Cependant, à peine Henri VIII avait-il quitté François Ier, qu'il était allé à Gravelines, où l'attendait Charles Quint.
Après les fastes du camp du Drap d'Or, et toujours sous la plume de l'académicien historien François-Auguste Minier, évoquons maintenant les temps sombres de la défaite de Pavie et de la capture de François Ier.
En moins de 2 heures, une belle armée ayant à sa tête un vaillant prince et les généraux les plus braves avait été battue et presque anéantie. Plus de 10 000 hommes avaient péri sur le champ de bataille ou s'étaient en fuyant, noyés dans le Tessin, dont Antonio de Leiva, à sa sortie de Pavie, avait envoyé détruire le pont. Les meilleurs chefs de guerre, les grands officiers de la couronne, les premiers seigneurs du royaume étaient tués ou pris. La défaite de Pavie n'était pas seulement un immense revers, c'était encore un redoutable danger. Elle décidait du sort de l'Italie et exposait la sûreté de la France, en rendant certaine la perte de l'une et probable l'invasion de l'autre. L'implacable duc de Bourbon demandait à opérer cette invasion sur le champ. À la suite d'une bataille aussi décisive qu'il avait contribué à gagner comme à livrer, rempli d'une joie orgueilleuse, emporté par ses opiniâtres ressentiments, enivré d'ambitieuses espérances, il voulait déposséder au profit de Henri VIII l'infortuné prisonnier de Charles Quint. François Ier était prisonnier de Charles Quint. Le royaume était placé sous l'administration d'une femme, Louise de Savoie, duchesse d'Angoulême, que son fils avait nommée régente en partant pour l'Italie, et dont l'influence avait plus montré jusqu'alors l'avidité que la capacité. Des 3 enfants de François Ier, le plus âgé avait à peine 8 ans. L'autorité, si nécessaire en ces conjonctures menaçantes, ne résidait avec force nulle part. L'argent manquait dans l'état épuisé. Les troupes avec lesquelles on aurait pu repousser les agressions extérieures avaient été détruites ou dispersées. Les meilleurs chefs de guerre étaient morts ou captifs. On semblait également dépourvu des moyens de garder le royaume sans trouble, si le roi en restait longtemps éloigné, de le préserver d'un démembrement s'il était envahi. La grande infortune de Pavie laissait redouter de plus grands malheurs encore pour la France. François Ier fut d'abord enfermé dans la tour carrée de Los Lujanes, ainsi nommée parce qu'elle appartenait à Don Fernando Luján. Elle avait été choisie comme la plus forte des tours qui flanquaient l'enceinte de Madrid. François Ier n'y resta pas longtemps. L'Alcazar, destiné à lui servir de demeure, étant prêt à le recevoir, il y fut conduit et établi. Le donjon où il devait passer tant de mois dans les tristesses de la prison, les accablements de la maladie, les angoisses d'une négociation agitée et interminable, était haut, étroit et sombre. Il s'élevait non loin du Manzanares, presque à sec dans cette saison, et avait vu sur la campagne aride du vaste plateau de Madrid. La chambre disposée pour le roi prisonnier n'était pas très spacieuse. On y arrivait par une seule entrée, et l'unique fenêtre qui y laissait pénétrer la lumière s'ouvrait du côté du midi, à environ 100 pieds du sol, à peu de distance du Manzanares. Cette fenêtre, pratiquée dans l'épaisseur de la muraille, était assez grande pour former comme un cabinet par son profond enfoncement. Vitrée intérieurement, elle se fermait au dehors par une double grille de barreaux de fer scellés dans le mur. Un lit pour le roi, des coffres pour les objets de sa toilette et de son service, quelques tables et des sièges pour ceux qui étaient admis à lui tenir compagnie ou à le visiter, composaient l'ameublement de cette chambre, dont les murailles se couvrirent bientôt de tentures à fleurs de lys, apportées de France, et sur lesquelles se détachait, avec l'écusson royal, l'emblématique salamandre de François Ier et la lettre F de son prénom. Alarcon, placé dans le voisinage du roi avec sa troupe d'arquebusiers, qui occupait surtout la partie inférieure de la tour, n'avait pas de peine à veiller sur le prisonnier confié à sa garde. Vers le même temps où l'empereur Charles Quint apprenait par le marquis de Pescara les projets menaçants des princes italiens et où il recevait d'Angleterre l'avis que son ancien allié Henri VIII concluait un traité avec la régente de France, il était informé du dangereux état dans lequel la captivité avait fait tomber le roi son prisonnier. Après que les négociations pour la paix avaient été suspendues, François Ier, voyant que Charles Quint se refusait à une entrevue, sentant que la possibilité d'un accord et l'espoir de sa délivrance s'éloignaient de plus en plus, craignant que son royaume, où des dissentiments commençaient à se montrer entre le Parlement et la régente, ne fût exposé à d'irrémédiables désordres par son emprisonnement prolongé, fut en proie à une mélancolique tristesse. La fièvre le saisit. Cette fièvre, continuant avec des redoublements, fut le signe d'une maladie des plus graves. François Ier perdit peu à peu ses forces, et la vie sembla sur le point de l'abandonner. Il parla à l'empereur comme s'il ne croyait pas survivre à son mal. Il le supplia, s'il succombait, d'avoir ses fils pour recommander, de ne pas trop exiger d'eux, de les prendre sous sa protection et de les défendre contre ceux qui les attaqueraient. Charles Quint le rassura et lui dit que tout s'arrangerait selon ses vœux lorsqu'arriverait sa sœur, la duchesse d'Alençon. On annonça en même temps que Marguerite de Valois était entrée dans Madrid et qu'elle approchait de l'Alcazar. Cette princesse, d'un cœur si tendre, d'un mérite si haut, d'un esprit si rare et si orné, était partie de France au milieu des plus grandes chaleurs de l'été pour aller au fond de l'Espagne travailler à la délivrance de son frère. Sa mère l'avait investie de tous les pouvoirs nécessaires pour cette délicate négociation, avec l'espérance que sa beauté et son habileté, les charmes de sa personne et les ressources de son dévouement la conduiraient à bonne fin. La régente n'avait cependant pas perdu de temps. Le maréchal de Montmorency, le 29 janvier 1526, avait apporté à Lyon le traité de Madrid. Louise de Savoie avait quitté la résidence qu'elle y occupait à Saint-Just depuis un an et demi. Et le 1er février, elle s'était mise en route pour traverser la France et se rendre à Bayonne. Elle était suivie d'une partie de la cour et accompagnée du docteur Taylor et de Louis de Praet, ambassadeur d'Henri VIII et de Charles Quint. De la route, elle annonça cette paix au royaume, sans en faire connaître les désastreuses conditions. Elle se bornait à montrer les heureux résultats qu'aurait la délivrance du roi, et elle demandait une levée de deniers pour faire face aux engagements contractés envers le roi d'Angleterre. Arrivée à Rouen, elle s'embarqua sur la Loire, grossie par des pluies extraordinaires, et se rendit, non sans lenteur et sans péril, d'abord à Blois, puis à Amboise, où étaient les enfants de France. Dans l'alternative laissée par le traité de Madrid de livrer comme otage ou le dauphin et 12 des principaux personnages du royaume, parmi lesquels le duc de Vendôme, le duc d'Albany, le comte de Saint-Pol, le maréchal de Lautrec, le maréchal de Montmorency, le comte de Guise, le grand sénéchal de Normandie, Chabot de Brion, le seigneur de Laval de Bretagne, bref, tous ceux qui avaient survécu au désastre de Pavie et qui étaient capables de défendre le pays, ou bien de remettre les deux fils aînés du roi. Elle choisit. D'accord avec son conseil, ce dernier partit. Par un sacrifice qui coûtait à son affection, mais qui pouvait tourner à l'avantage du royaume, elle se décida à donner en otage un de ses petits-fils de plus et à conserver en France ceux qui restaient les derniers soutiens de l'État. Prenant avec elle le dauphin, âgé de 8 ans et demi, et le duc d'Orléans, qui allait atteindre sa 7e année, elle ne laissa dans le royaume que le duc d'Angoulême, beaucoup plus jeune que ses frères. Quoique tourmentée par la goutte, elle s'achemina vers Bayonne avec ses petits-fils, réservée à la plus attristante captivité. ces aimables et pauvres enfants allaient être conduits au-delà des Pyrénées, bientôt séparés de leurs serviteurs et enfermés dans le château de Pedraza, au milieu des montagnes, sous la garde de quelques grossiers soldats de Don Juan de Tovar, marquis de Verlanga, fils du connétable de Castille. Ce fut le 17 mars, à 7h du matin, que dut se faire avec les plus minutieuses et les plus défiantes précautions l'échange de François Ier et de ses deux fils sur la rivière qui sépare le royaume de France des terres d'Espagne. En abordant la terre de France, François Ier ne put contenir la joie que lui inspirait le sentiment de la liberté et le retour dans son royaume. Il s'élança sur un cheval et il s'écria « Maintenant, je suis roi ! Je suis roi encore !» En attendant que fût recueillie la forte somme d'or qui devait être frappée en écu d'un poids déterminé et d'un titre uniforme, les enfants de François Ier restaient tristement prisonniers. Ils l'étaient depuis près de 4 ans, et ils n'avaient pas été toujours traités selon les convenances de leur grandeur, ni avec les ménagements qu'exigeait leur tendre jeunesse. Aussitôt que le dauphin, alors âgé d'un peu plus de 8 ans, et le duc d'Orléans, qui n'avait pas encore atteint sa 7e année, avaient mis le pied sur le sol de l'Espagne, ils avaient été confiés à Don Inigo Hernández de Baleseo, duc de Prias et connétable de Castille, qui avait prêté serment de les avoir en surgarde et d'en rendre bon compte à l'empereur. Ils avaient été enfermés d'abord dans la place de Ampudia, puis dans celle de Villalpando, sans être séparés de leur suite, qui était fort considérable. Mais après la déclaration de guerre de 1528, la défiance étant accrue avec l'irritation, ils avaient été séparés de tous leurs serviteurs, y compris leurs précepteurs et leurs médecins, que l'on avait envoyés comme prisonniers dans diverses forteresses. Transportés eux-mêmes à Pedraza de la Sierra, au milieu des montagnes de la Castille, les jeunes princes y étaient entourés d'Espagnols, la plupart grossiers soldats que commandait le capitaine Don Pedro de Peralta. Personne n'avait pu pénétrer jusqu'à eux, et toutes les tentatives faites pour avoir de leurs nouvelles n'avaient servi qu'à accroître la rigueur de leur isolement. Dans l'été de 1529, pendant que s'engageaient les négociations de Cambrai, Bordin, huissier de la régente Louise de Savoie, fut envoyé en Espagne pour les visiter de la part de leur père et de leur aïeul et savoir comment ils étaient traités. Bordin trouva le dauphin et le duc d'Orléans dans une chambre très obscure et tout à fait nue. Ils étaient assis sur de petits sièges de pierre, près d'une fenêtre pratiquée dans une muraille épaisse de 8 à 10 pieds, garnie au-dedans et au-dehors de grosses barres de fer, si élevées qu'il en descendait à peine quelques faibles clartés et un peu d'air. C'était un lieu, dit l'huissier, à peine bon pour y détenir de grands criminels, et bien malséant et malsain pour des personnes d'une aussi haute condition et d'un âge aussi tendre que mes seigneurs. Ils y étaient assez pauvrement vêtus. En les voyant ainsi, continue Bordin, je ne puis retenir mes larmes. S'étant découvert, il s'approcha respectueusement du dauphin et il lui transmit en langue française les paroles affectueuses et rassurantes dont l'avaient chargé le roi et la duchesse d'Angoulême. Il l'instruisit des conférences de Cambrai, où se négociait la paix qui, ajouta-t-il, devait le réjouir beaucoup, parce qu'elle procurerait sûrement sa délivrance, celle du duc d'Orléans, et leur permettrait bientôt de voir le roi, madame, les seigneurs et le commun peuple de France, qui désiraient tant leur retour. Le dauphin l'écoutait avec une contenance triste, puis s'adressant en langue espagnole au marquis de Berlanga, il lui dit qu'il n'avait pas bien compris, et que si l'huissier Bordin savait l'espagnol, il voulut bien parler en cette langue. « Je fus considérablement surpris, dit Bordin, en voyant que les princes étaient devenus étrangers à leur langue naturelle, et me servant de la langue du pays, je leur répétais mes paroles et leur annonçais qu'ils ne tarderaient pas à recevoir leur liberté. » Il demanda ensuite au dauphin s'il ne savait plus parler la langue de France. « Comment serait-il possible, répondit le dauphin en espagnol, de la retenir sans en faire usage, n'ayant plus vu aucun de nos serviteurs pour la parler ?» Le dauphin et les ducs d'Orléans adressèrent alors avec une aimable curiosité toutes sortes de questions sur le roi, sur la régente, leur grand-mère, sur la reine de Navarre, leur tante, sur le duc d'Angoulême, leur frère, sur plusieurs seigneurs de la cour, s'enquérant de ce qu'ils faisaient, de l'état du lieu où ils se trouvaient. Ils remercièrent de la bonne volonté qu'on avait pour eux et firent supplier le roi et madame de la leur continuer afin qu'ils fussent tirés au plus tôt de la captivité. Vers l'été de 1530, tout étant prêt pour l'entière exécution du traité de Cambrai, ils furent conduits par le connétable de Castille avec autant d'appareils que de vigilance jusqu'à la frontière d'Espagne. Ils arrivèrent dans le mois de juin à Fontarabie, où les rejoignit la reine Éléonore, que le vicomte de Turenne était allé épouser à Tolède au nom du roi, et qui devait entrer en France le même jour qu'eux. Le connétable de Castille et le grand maître de France convinrent que la délivrance du dauphin et du duc d'Orléans s'opérerait, comme avait été accomplie celle du roi leur père en 1526, sur un ponton placé au milieu de la Bidassoa, dont les deux bords seraient gardés par une troupe égale de soldats et dont l'embouchure serait surveillée par deux galions, l'un français, l'autre espagnol, afin qu'il ne pût être apporté ni trouble ni fraude. Le 1er juillet, à la haute marée, deux caraques, sur lesquelles se trouvèrent d'un côté le grand maître avec les 1 200 000 écus et les valeurs diverses, de l'autre le connétable avec le dauphin et le duc d'Orléans, conduites par le même nombre de rameurs, gardées par le même nombre de gentilshommes et de pages armés de la même manière, partirent en signal donné des deux bords opposés de la rivière et arrivèrent ensemble au ponton où elles furent amarrées. Montés, chacun avec sa suite sur le ponton, le grand maître et le connétable le traversèrent pour descendre, le premier dans la barque espagnole où étaient les princes, le second dans la barque française où étaient les 1 200 000 écus d'or et les titres des différentes sessions. Alors, les deux barques se remirent en mouvement et, contournant le ponton en sens inverse, se rendirent celle du connétable avec les valeurs assurées sur la rive d'Espagne, celle du grand maître avec les princes libres sur le territoire de France. La reine Éléonore, accompagnée de ses dames, traversa en même temps la Bidassoa et se mit avec le dauphin et le duc d'Orléans en marche pour Bordeaux, où le roi et toute sa cour étaient venus les attendre. François Ier et la duchesse d'Angoulême reçurent leurs chers enfants et petits-enfants au milieu des plus tendres effusions et dans des transports d'allégresse. La nouvelle reine, qui fit une entrée solennelle à Bordeaux, fut accueillie avec une courtoisie affectueuse par François Ier et non sans espérance par la cour et le peuple, qui virent en elle un gage de paix entre le prince dont elle était la sœur et celui dont elle devenait la femme. Toutes les clauses du traité de Cambrai étaient accomplies. Cette paix onéreuse, mais nécessaire, mettait un terme à la première période de la lutte qu'avaient soutenue pendant plus de 8 années, avec tant d'animosité, les deux monarques si diversement ambitieux et si inégalement habiles, dont l'un avait beaucoup d'esprit et le plus hardi courage, l'autre beaucoup de sens et la plus ferme constance.
Après les évocations lourdes et douloureuses de la défaite de Pavie, de la captivité du roi François Ier et de ses enfants, nous allons poursuivre dans un instant, cette fois sous la plume de l'académicien historien Antoine Lévy de Mirepoix, dit duc de Lévy-Mirepoix, le portrait et l'évocation de ce grand roi bâtisseur que fut François Ier, protecteur des arts, de la culture et des grandes découvertes. Voici auparavant quelques informations sur l'auteur de ces textes qui vont vous être lus dans un instant. Antoine de Lévy-Mirepoix, dit duc de Lévy-Mirepoix, est né à Léran, dans l'Ariège, en 1884. Titulaire d'une licence de lettres, il entama une carrière d'historien et de romancier et produisit une œuvre dans laquelle on peut citer Le Papillon Noir, Le Nouvel Apôtre, Le Seigneur Inconnu, Les campagnes ardentes, récit de guerre couronné par l'Académie française en 1917, ou encore Le baiser de l'Antéchrist, Montségur, Le voyage de Satan, Sainte Jeanne de France, fille de Louis XI, François Ier, Le siècle de Philippe le Bel, son ouvrage sans doute le plus achevé et le plus célèbre. Il fut élu en 1953 à l'Académie française au fauteuil de Charles Maurras. Il meurt en 1881 à Lavelanet, en Ariège, voici donc des extraits du travail d'historien du duc de Lévy-Mirepoix sur le vainqueur de Marignan.
François Ier est un roi qui gouverne. Si un gouvernement personnel doit porter plus lourdement le poids des fautes, il doit recevoir plus directement aussi l'honneur des succès. Voici comment le prince expose lui-même s'est vu à Marino Giustiniano, ambassadeur de Venise. Monsieur l'ambassadeur, je ne puis pas nier que je désire vivement voir le Turc très puissant et prêt à la guerre. Non pas pour lui, car c'est un infidèle, et nous autres sommes chrétiens. Mais pour affaiblir les puissances de l'empereur, pour le forcer à de graves dépenses, pour rassurer tous les autres gouvernements contre un ennemi si grand. Ailleurs, il dit « Veux pourvoir en mon affaire en sorte que je ne sois surpris, ni mon dit royaume pillé. » C'est rigoureusement ce qu'il met en pratique, et avec quelle nuance, quel équilibre, quelle sûre et subtile détermination du but. Au milieu des nécessités de sa défense contre Charles Quint, s'il tend la main au Turc, il ne se jette pas dans ses bras et ne perd pas le sens de la chrétienté. Il veille sur le Saint-Sépulcre et sur l'église latine de Jérusalem et obtient de Soliman un véritable droit de cité pour le culte chrétien. « Ils conserveront, proclame le grand Turc, en toute sûreté les oratoires et les établissements qu'ils occupent actuellement sans que personne puisse les opprimer et les tourmenter d'aucune manière, qu'on le sache ainsi. » Et cette mansuétude est appuyée par ces paroles adressées à François Ier. L'amitié et l'affection qui existent entre ma glorieuse majesté et vous rendent vos désirs admissibles auprès de ma personne, source de bonheur. François Ier sut faire tourner ce prétendu scandale de l'amitié avec le Turc au profit de sa foi. Il ne négligeait pas non plus les intérêts matériels de son peuple. Dans tous les pays mahométans, le commerce français, grâce à la protection spéciale obtenue par le roi, gagna et conserva longtemps une avance considérable sur celui des autres pays. La méthode de ce prince vis-à-vis du Turc est surtout une méthode de persuasion. Ne remplit-il pas, en protégeant les lieux saints, le véritable but de la croisade? S'il s'agit de la faire à l'ancienne manière, François Ier, qui a donné dans la défense de Rhodes la preuve de sa bonne volonté, garde beaucoup de scepticisme et, répondant un jour aux instances du pape, il émet l'avis que les princes chrétiens doivent attaquer le Turc sur des points différents. S'ils étaient ensemble, au lieu de faire la guerre aux Turcs, la pourraient faire entre eux-mêmes. Après le traité de Cambrai, cette idée de la croisade était reprise par le pape et soutenue par l'empereur. Mais comme le César ne se souciait pas de voir François Ier traverser ses états à la tête d'une forte armée, il poussait le pape à n'adresser au roi que des demandes d'argent. François, sans se laisser prendre au dépourvu, écrit à l'évêque d'Auxerre, son ambassadeur à Rome. « Je trouve étrange que l'on tâche d'avoir de moi contribution d'argent et non de gens. Attendu que toute ma vie, je me suis toujours voulu trouver en personne aux guerres que j'ai eues. Et maintenant que, grâce à Dieu, mon royaume est en paix et mes enfants entre mes mains, je ne demeurerai par les villes de mon royaume, pendant que les autres combattraient pour la défense de leur foi. » Le roi fait valoir ensuite un moyen d'aplanir les difficultés avec le Turc, sans dépense d'hommes ni d'argent. En 1528, François avait fait accorder par le sultan l'investiture du royaume de Hongrie à Jean Zápolya. Moyennant ce léger lien de vassalité, prétendu par la porte, la Hongrie vivait à l'abri d'une nouvelle invasion ottomane. La solution n'était pas du goût de l'empereur, qui savait que Jean Zápolya voulait adopter un fils de François Ier, tandis que lui, Charles Quint, convoitait le trône hongrois pour son frère Ferdinand. « J'ai apaisé le sultan, » répondait le roi. « Il laisse la Hongrie en repos. » Vous l'exaspérez en recherchant un changement de titulaire. Je ne donnerai pas mon argent pour une opération qui ne sera qu'une nouvelle source de troubles. Pour bien pénétrer la vie de François Ier, on doit se représenter simultanément son activité militaire, sa politique étrangère, une crise de conscience qui secoue toute la chrétienté. Ce n'est pas tout. Il profitera de la période de paix qui s'étend de 1529 à 1536 pour résoudre les difficultés intérieures et favoriser de grandes entreprises. D'une façon générale, son gouvernement se caractérise par une discipline aisée, consentie et soutenue qui fait l'admiration des observateurs étrangers. Cependant, de si grands événements, et en particulier la captivité du roi, n'avaient pas été sans produire quelques contre-coups dans la vie intérieure de la France. Lyon, dont l'importance fut si grande durant tout le règne, devait être battu de ce remous. elle ne cessa d'être la seconde capitale du royaume, le poste de direction des grandes campagnes, et fut constamment l'objet de la sollicitude royale. Des messagers spéciaux apportent à Lyon les grandes nouvelles. Le roi, que Dieu garde, vient d'envoyer à notre échevinage un messager pour lui annoncer que ses deux fils, François Dauphin et Henri d'Orléans, ont quitté la prison d'Espagne et mis pied sur la terre de France. Le roi demande que vous vous réjouissiez avec lui de cet heureux événement. Il prend même soin de faire connaître aux Lyonnais les clauses de son mariage avec Éléonore de Portugal. Confie au consul de Lyon la garde du sceau pour marquer les étoffes. Il s'occupe de l'embellissement et de l'assainissement des rues. Il octroie, sur demande des conseillers de la ville, une charte par laquelle il attire les ouvriers en velours génois et tous autres étrangers avec l'autorisation d'acquérir des biens meubles et immeubles sans être tenu de prendre des lettres de naturalité. Grâce à cette large conception du commerce international, un grand nombre de capitalistes, marchands, manufacturiers, importèrent à Lyon les arts industriels d'Italie. Mais cette pratique hardie, qui enrichissait la cité et favorisait l'activité économique du royaume, rendait nécessaire un contrepoids de surveillance. La position de Lyon était exceptionnelle. C'était à la fois une capitale et une véritable ville frontière. « Où y a-t-il nation, dit le chroniqueur, de laquelle il ne se trouve des habitants à Lyon ?» Une telle pénétration étrangère apportait nécessairement des germes de sédition. Voici une remarque du temps qui a gardé sa valeur. « Il ne fut jamais que grande cité, et toute république n'eussent leur tempête, pour autant que tout menu peuple, comme crocheteurs, gaigne-deniers, petits artisans et gens de métier qui n'ont guère à gagner et encore moins à perdre son bien-aise de remuement, espérant toujours que l'état présent des cités étant changé, ne leur pourrait réussir qu'à leur profit, car, n'ayant rien, ils ne pourraient moins avoir. » On constata la présence de 30 bouts de feu, vagabonds à la solde de l'étranger, qui cherchaient à allumer des incendies. Des arrêtés d'expulsion furent pris contre les rôdeurs suspects que l'on désarmait. Et quant aux mendiants sans travail, un édit royal les invita à vider la ville ou bien à aller travailler au fossé de Saint-Sébastien, moyennant quoi ils seraient nourris. François Ier ne négligeait rien non plus de ce qui pouvait encourager l'activité économique de la France. Ce qu'il faisait pour le commerce de Lyon, il le renouvelait pour les autres villes, suivant les provinces, se gardant bien de prendre de ces mesures trop générales qui, faites pour contenter tout le monde, ne conviennent, dans les cas particuliers, à personne. La satisfaction lui fut donnée de voir rapidement se développer le port du Havre que, reprenant une pensée de Louis XI, il avait fondé au début de son règne, sous le nom, bientôt changé, de ville française. Son zèle pour la marine, tant en matière de commerce qu'en matière militaire, ne se ralentissait pas. En 1536, il possédait 30 galères. 10 ans plus tard, il eut en outre 150 gros vaisseaux ronds et 60 petits bâtiments, donnant une suite utile aux rafles par lesquelles il débarrassait le pays des vagabonds et malfamés, il les embarquait sur sa flotte. Une rude discipline en tirait parti. Ce défenseur de l'équilibre européen le fut aussi de la liberté des mers, qu'il définissait le droit de « naviguer sur la mer commune ». Le fait de trafic et échange de marchandises, disait-il, et de tous les droits, un des plus naturels et des plus autorisés. Et le grand commandeur d'Alcantara, lui ayant fait des représentations au nom de Charles Quint sur la première expédition de Jacques Cartier, il répondit « Est-ce déclarer la guerre et contrevenir à mon amitié avec Sa Majesté que d'envoyer là-bas mes navires ? Le soleil, lui, pour moi, comme pour les autres, je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. » Nos corsaires, d'ailleurs, se chargeaient de revendiquer leur part d'héritage. Acharnés après les convois espagnols, ils s'emparèrent d'une grande partie des trésors de Cortés. La marine marchande était alors une seconde marine de guerre, tant étaient fréquentées avec la course les occasions de combattre. On vit un armateur de Dieppe, le fameux Jean Angot, en représailles de l'enlèvement d'un de ses bateaux par les Portugais, hors du temps de guerre, armer en 1530 une véritable flotte montée par 800 hommes, bloquer le port de Lisbonne et aller inquiéter les Portugais jusque dans les Indes. le roi de Portugal dut envoyer un ambassadeur au roi de France pour offrir la paix à Ango. François Ier nomma ce fier homme de mer gouverneur de Dieppe. Le roi soutint aussi tant qu'il put les expéditions de découverte. Tandis que Jean et Raoul Parmentier atteignaient Sumatra sur la Pensée et le Sacre, par ordre et aux frais de François Ier, le Florentin Verrazzano, sur le Dauphin, parcourait la côte orientale de l'Amérique du Nord. Surtout, François Ier unit sa propre gloire à celle de Jacques Cartier en lui confiant l'expédition couronnée par la découverte du Canada, où devait bientôt et à jamais s'incruster la puissante race de pionniers français qui maintient magnifiquement de l'autre côté de l'océan notre âme et notre langage. Cartier, dans un premier voyage, dont l'amiral Brion Chabot soumit au roi le projet, reconnut en 1526 le Labrador, Terre-Neuve, les îles de la Madeleine, longea l'île du Prince-Édouard et débarqua devant la baie de Gaspé. À son retour, l'explorateur présenta deux Hurons à la cour de François Ier. On se demande de quel côté la surprise devait être la plus grande. En 1535, Cartier, sous la protection de la Meilleraye, vice-amiral de France, entreprit une seconde expédition. Son équipage, béni solennellement dans la cathédrale de Saint-Malo, monta sur les trois vaisseaux frétés par le roi. La Grande Hermine, la Petite Hermine, l'Emerillon, aux noms immortels. C'est alors qu'il atteignit la baie de Saint-Laurent et, au milieu de difficultés terribles, pénétra dans l'intérieur du pays. Au confluent de la rivière Saint-Charles, il planta une inscription qui indiquait la prise de possession des terres par le roi de France. Franciscus Primus Dei Gratia Francorum Rex Regnat. Jacques Cartier, ami de Rabelais, qui vint apprendre de lui les termes de la marine, fut anobli par François Ier qui lui fit à titre personnel don de la Grande Hermine. Un défenseur des projets de Cartier, Jean-François de la Roque, seigneur de Roberval, reçut du roi la vice-royauté du Canada et y accomplit une expédition pleine de périls et d'épreuves. Ces luttes incessantes contre Charles Quint ne permirent pas à François Ier de fonder un établissement fixe au Canada, mais son nom fut apporté par ses semeurs comme la première graine de France. Le grand historien canadien Garneau a rendu en ces termes un bel hommage à sa mémoire. Au milieu de la guerre acharnée qu'il soutenait contre Charles Quint, dont les vastes États menaçaient l'indépendance de l'Europe, il ne cessait point d'exciter l'émulation de ses sujets pour le commerce et la navigation, comme il le faisait pour les lettres et les arts. Il est exact que ce roi prenait de fastueux loisirs. On sait qu'il était sensuel et qu'il aimait les exercices violents. Mais il pratiquait aussi les loisirs du goût et de l'intelligence. Il s'est produit ici une grave équivoque. Ceux-là même qui accusent Levallois de négligence dans les devoirs de sa charge lui rendent cette justice d'avoir été au degré le plus éminent un mécène du grand siècle de l'art. Son goût apparaissait tellement sûr, sa volonté tellement claire, qu'on ne les discute pas. Tous ceux qui ont tenu une plume ont, en parlant de lui, plus ou moins témoigné d'une espèce d'instinct reconnaissant à l'homme qui recherchait, honorait et protégeait les grands esprits. Il disait de Rabelais « Vous n'y toucherez pas », secourait Marot jusqu'au fond de l'exil, et la charmante familiarité du poète en ses épîtres prouve leur bonne entente, écrivait de sa main à Michel-Ange comme à un roi pour lui demander quelque chose des plus exquises et excellentes en son art et voyait Budé sur le pied d'une intimité parfaite. François ne faisait d'ailleurs que son métier d'animateur national en ouvrant ses châteaux et son pays aux esprits créateurs. Mais il avait sa manière. Michelet l'a décrit comme il sait le faire, en quelques mots saisissants. Dans ce siècle où tous les princes affichèrent la protection des arts, il y a entre les protecteurs des différences à faire. Léon X eut l'idée de faire Raphaël cardinal. Le politique Charles Quint flatta Venise en ramassant le pinceau du Titien. Tous honorèrent les artistes, mais François Ier les aima. Regardons-le faire. Voici un aventurier qui a pratiqué tous les métiers, voire celui de coupeur de bourse. Mais il a du génie. N'oublions pas que nous sommes au temps des privilèges. Le génie est le premier de tous aux yeux du roi. Benvenuto Cellini est installé en seigneur au château de Nesle. Et la duchesse d'Étampes, la jolie maîtresse royale, lui cherche en vain querelle. À Monsieur de Saint-Pol, qui appuie sur quelque incident fâcheux de sa vie, le roi répond « Tu peux le faire pendre, pourvu que tu me retrouves un artiste de sa taille. » Et il parle ainsi à ce favori des dieux. « Je sais bien que vous n'avez pas travaillé comme ces imbéciles qui, malgré qu'ils puissent faire quelque chose de gracieux, ne donnent point de sens explicable à leurs ouvrages. Mon ami, je ne sais lequel de ces deux plaisirs est le plus grand, celui d'un prince qui trouve un homme suivant son cœur, ou celui d'un artiste qui trouve un prince qui lui donne toute facilité pour exprimer ses brillantes inspirations. » Selon lui, cette statue de Jupiter qu'il avait commandée à Benvenuto égalait une œuvre antique. Grâce aux mémoires laissées par cet homme étrange, qui insufflait la vie aux matières précieuses, les détails abondent sur ses rencontres avec le roi. Combien d'autres ont été ainsi l'objet d'attentions délicates et de propos affectueux ? Jules Romain, André del Sarto, qui peignit le dauphin François, le Rosseau, architecte, peintre, poète, qui fut créé chanoine de la Sainte-Chapelle, le Primatis, Salviati, Jean Cousin, le Titien, qui peignit le roi dans sa force tumultueuse, et François Clouet qui l'évoqua dans un style émacié et pensif. Voici Bernard Palissy dont le nom évoque un patient miracle. Voici Léonard le Limousin, peintre émailleur de la cour. Celui-là mêle à la flamme créatrice un peu de l'âme de ce roi qui, pareil à la salamandre, son emblème, se nourrissait de feu. Des cornues et des braises sortent ces images raffinées de François sur lesquelles on peut observer, en ces fins détours, l'intelligence qui circule comme le sang à travers un des visages les plus riches d'expressions que la peinture ait traduit. Presque toujours, c'est le front qui révèle l'activité de la pensée. Chez François Ier, il paraît à peine, et pourtant, niché en un coin des paupières, une spiritualité indulgente à la matière gouverne toute la face. Le roi demanda beaucoup aux architectes qu'il sut merveilleusement choisir et qu'il guidait avec une pratique assurée de leur art. Philippe Delorme avait le titre de conseiller et d'aumônier ordinaire et jouissait du revenu de plusieurs abbayes. Les attentions royales allèrent aussi à Pierre Lescot, qui dessina le nouveau Louvre, dont il subsiste encore la façade de l'horloge et dressa les cariatides de la Fontaine des Innocents, aux Halles, que Jean Goujon orna de sculptures. Parcourant sans cesse son royaume, François promenait sur maintes résidences son regard créateur. Il rebâtit ou embellit Saint-Germain-en-Laye, Amboise, Chambord, Folembray, Villers-Cotterêts, le château de Madrid, Blois, Fontainebleau. Souvent, il travaillait avec de simples maîtres maçons qu'il savait choisir et qu'il dirigeait lui-même. Jacques Sourdeau à Blois, Jacques Cocot et Pierre Neveu à Chambord. S'il n'eût été roi, il eût pu remplir la carrière d'un des plus grands architectes de la Renaissance. Chambord et Fontainebleau, voilà les œuvres caractéristiques de son inspiration. Chambord, le gigantesque bouquet de pierre, la merveille d'architecture nationale dans le respect des traditions antiques. Il l'entreprit en 1526, au retour de Madrid. 1800 ouvriers y travaillèrent pendant 12 ans. Ils savaient donner du travail et du beau. Fontainebleau est une œuvre plus complexe, fortement marquée par les règnes suivants. C'est pourtant là qu'il faut évoquer le roi, entouré d'un incomparable état-major d'artistes d'Italie et de France, restant pendant des heures au milieu des ouvriers, guidant la marche des constructions ajourées qu'il substitua en lignes cadencées aux lourdes masses féodales, traçant sa fameuse galerie, faisant germer une décoration intérieure qui perpétue au long des salles les miroitements de la forêt. C'est le séjour qu'enfin il préféra. Lorsqu'à 24 ans, François Ier recueillit le souffle du Vinci, n'avons-nous pas senti passer du vieux maître au jeune roi le don d'universalité ? L'homme à l'armure bossuée fut un humaniste complet. C'est pourquoi il comprend si bien Rabelais. tout homme devenait français à ses yeux, pourvu qu'il apportât des talents distingués. Les langues étrangères reçurent droit de cité en France. C'est ainsi qu'il eut, pour précepteur de ses enfants, un savant réfugié, lors du pillage de Gênes, auquel il donna l'évêché de Grasse. Un aimable poète latin de Hollande, Jean Segond, fut, de Lyon, adressé à la cour, où il reçut un accueil souriant du roi et de la reine. Le souverain se plaisait à honorer la profonde érudition d'un Érasme, d'un Lascaris. Et d'autre part, il n'est pas une lumière française qu'il ne rechercha. Avec sa sœur, il aimait à visiter l'imprimerie de Robert Étienne et à deviser avec lui en latin. Amillot, protégé de Marguerite, reçut une chaire de langue classique à Bourges. Pierre Duchâtel était des familiers de la cour. Guillaume Postel reçut de François la mission d'aller chercher en Orient des manuscrits antiques. Le roi s'intéressait aux orateurs, mais il préférait de leur part l'élévation à la flatterie. Poyet, qui, comme on l'a vu, avait oublié ses classiques et ne parlait pas sans difficulté, déclarait un jour lourdement au monarque qu'il était le maître des biens de ses sujets. Mais Castillon put répondre aussitôt, sans aucune marque de désapprobation, « Portez au Caligula et au Néron ces maximes tyranniques et respectez un roi ami de l'humanité qui sait que le premier de ses devoirs est d'en consacrer les droits. » Montholon, qui avait été l'avocat de Bourbon, ne cessa de garder l'estime et la confiance du prince. Des médecins et des chirurgiens comme Pierre Brissot, Burgensis, Fernel, Dubois, Ambroise Paré connaissaient sa faveur. L'histoire nationale avec Pélissier, Vidius, Rondelet, les mathématiques avec Oronce Finet, l'espagnol Poblacion, le droit avec Cujas et Dumoulin, et toutes ces études ensemble avec le vaste cerveau de Budé se réchauffaient au soleil de la couronne. Le Vénitien Giustiniano constate qu'en France, l'étude de la philosophie et de la théologie attire 20 000 étudiants. Et ajoute-t-il, il n'est personne, si pauvre qu'il soit, qui n'apprenne à lire et à écrire. Cependant, avec Guillaume Petit, son confesseur, et l'évêque Étienne Poncher, François Ier cherchait à remédier à la décadence de l'Université de Paris en matière classique. Or, considérant le cortège de savants et de lettrés qui l'entouraient à sa table, en ses promenades, à la chasse, et sentant quel air vivifiant il faisait ainsi respirer à son esprit, il voulut étendre cet avantage personnel à la nation. C'est ainsi qu'il fonda le Collège de France, constitué d'abord avec Danès et Giustiniani par une chaire de grec et une chaire d'hébreu, auxquelles s'ajoutèrent bientôt les chaires de mathématiques, de langues orientales, d'éloquence latine, de philosophie ancienne. Ce fut l'asile de la culture indépendante élaborée.
Vous venez d'écouter la seconde et dernière émission des Académiciens racontent l'histoire de François Ier. La sélection des textes qui vous ont été présentés a été effectuée par Daniel Jeanne, les comédiens Thomas L'Empire et Pierre Arnaud ont respectivement prêté leur voix à François-Auguste Mignet et au duc de Lévis-Mirepoix. Enregistrement, montage voix, son et musique, mixage, Jérôme Le Baron. Réalisation, Virginia Crespo.